Genèse chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Genèse 3, verset 1er au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà, par la suite, nous connaissons les conséquences. C'était la chute de l'homme. L'homme avait commis le péché, était entré dans l'humanité et l'humanité était désormais détruite. Et d'où l'origine des maladies, la source des tremblements de terre, éruptions volcaniques, cambriolages, viols, tout cela vient du péché. Et ce péché a commencé là. Donc, le texte que nous lisons, c'est le commencement du mal, le commencement du péché. Et je veux aborder un thème qui est très, très important parce que c'est un fait qui se retrouve, comme on vient de lire, déjà à l'origine. Je veux parler de la jalousie et des envies. La jalousie, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Et nous la voyons, nous voyons cette jalousie déjà dès le départ. Ce qui a motivé Adam et Ève à pécher, c'était la jalousie. Ils voulaient, ils enviaient quelque chose que Dieu avait que eux, ils n'avaient pas. Ils voulaient que leurs yeux s'ouvrent comme les yeux de Dieu. Ils voulaient être comme Dieu. C'est ça la jalousie. Et bien aimé, il est écrit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est a déjà existé. Et donc, pour bien traiter ce qui existe, nous avons besoin de nous inspirer de ce qui a déjà existé. Comment être libéré du péché? Comment être libéré des blocages de la vie actuelle chrétienne? Inspire-toi de ce qui s'est passé déjà, autrefois. Alors, autrefois, il nous est dit que Adam a été créé bon et Ève bonne. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais la jalousie est venue. Ils ont voulu, à l'image du diable, être comme Dieu. Nous nous souvenons que dans Ézéchiel et dans Ésaïe, chapitre 13, 14, on parle de la chute du diable. Ézéchiel 28, Ésaïe 13, 14. On parle de la chute du diable. Et lui aussi, c'était la même chose. Il est écrit qu'il a voulu se mettre sur le trône du Très-Haut. Donc, il a jalousé Dieu. Et aujourd'hui, les humains, quand ils pêchent, quand ils font le mal, une grande partie est due au fait qu'ils sont jaloux de Dieu. Ils veulent utiliser leur corps, leur vie, comme s'ils étaient à eux. Or, leur vie ne leur appartient pas parce qu'ils n'ont pas décidé de se créer eux-mêmes. Ils se sont retrouvés sur la terre. Et en disant « c'est ma vie », en quelque sorte, ils font un kidnapping. ils prennent la vie de quelqu'un d'autre. Quelque chose est à toi si tu es né à l'origine ou si tu l'as acheté d'une manière ou d'une autre. Et donc lorsque l'humain, lorsque l'homme prétend que c'est sa vie, en quelque sorte, il veut prendre ce qui n'est pas à lui. Donc il est jaloux de Dieu. Donc les humains pêchent parce qu'en grande partie, ils sont jaloux. Après, il y a tout ce qui est volonté de convoitise des biens de ce monde, convoitise des humains ou autres, où on veut avoir des choses. Mais en réalité, c'est parce qu'en eux, il y a une logique de jalousie vis-à-vis de Dieu. Ils sont jaloux d'appartenir à Dieu, alors ils veulent s'appartenir à eux-mêmes. Ils veulent que eux soient leur propre propriété, alors, au lieu que ce soit la propriété de Dieu. Cette jalousie-là, elle est dans tout homme. La jalousie vis-à-vis de Dieu. Vouloir se faire Dieu. Vouloir gérer les enfants comme si on était soi-même leur source. Alors que on est créature comme ces enfants-là. Donc, il y a cette jalousie qui a amené beaucoup de serviteurs de Dieu à trahir le Seigneur parce qu'ils ont à chaque fois voulu être comme lui dans toutes ses attributions. Or, Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Il faut qu'il y ait une différence. Et l'homme du départ n'a pas accepté cette différence. Satan a dit à Ève, Dieu vous a menti. Il sait que le jour où vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. Et par jalousie, ils ont jalousé Dieu. Ils ont voulu être comme Dieu. Eh bien, ils ont péché. Ils ont entraîné toute l'humanité dans le désordre, dans le désastre. Aujourd'hui, si nous souffrons dans ce monde, sur cette terre, c'est à cause de ce péché-là. Alors, bien-aimés, si la jalousie a entraîné la chute de l'humanité, alors sois attentif à la jalousie. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité puissante. Et elle est encore fonctionnelle à notre époque. Jalousie vis-à-vis de Dieu qui nous pousse à vouloir gérer nos vies comme si nous nous en étions les propriétaires. C'est de la jalousie vis-à-vis de Dieu. Nous voulons ressembler à Dieu parce que Dieu est souverain. Vous savez, c'est souverain, ça veut dire il n'a de compte à rendre à personne. Il est chef, il fait ce qu'il veut, il décide de ce qu'il veut. Mais on sait aussi qu'il est bon, Dieu. Il est amour, donc il prend que de bonnes décisions. Mais il est souverain. Et souvent, nous avons voulu gérer nos vies comme des souverains. Et ça, c'est un titre que Dieu seul a. C'est la jalousie. On veut faire comme lui. Or, on n'est pas Dieu. La jalousie, c'est ça. C'est envier ce qui est à autrui. Vouloir être comme autrui. La jalousie, c'est ça. Tu n'es pas bien de te contenter de ce que tu as, mais tu veux prendre ce qui est à autrui. Tu envies ce qui est à autrui. Et parfois, ça ne se manifeste pas par une sorte d'envie de ce qui est à autrui, mais par une colère lorsqu'on voit l'autre réussir ou l'autre avoir des choses. Je me souviens, on était quelque part dans une certaine voiture en Afrique et les vitres de la voiture et du véhicule étaient ouvertes, donc on roulait à 20 km/h ou même 10 même parce que le chemin était chaos. Y avait des chaos sur le chemin. Et il y a des femmes qui étaient à l'extérieur. Ils disent, oh, les bienheureux, ils sont dans une belle voiture. Bon, elles étaient mal tombées parce que moi aussi j'ai répondu immédiatement, les bienheureux sont ceux qui croient en Dieu. C'est lui qui donne les choses. C'est la jalousie. Tu n'es pas bienheureuse de marcher à pied. Est-ce que elle savait que peut-être que les gens qui étaient dans la voiture, c'était des handicapés. Des gens qui ne sont pas capables de marcher à pied. Elle ne savait pas. Elle dit, elle est bienheureux parce qu'ils sont dans la voiture. Mais est-ce que tu connais leur vie? Est-ce que tu connais les maladies qu'ils ont? Tu ne connais pas. C'est la jalousie. On veut être comme l'autre. On veut prendre ce qu'il y a à l'autre. Et c'est la jalousie qui est à l'origine de la chute de l'humanité. On en souffre. Mais bien aimé, comme il est écrit d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau. Sache que jusqu'aujourd'hui, ce qui te bloque, peut-être c'est la jalousie. Sois honnête. Jalousie vis-à-vis de Dieu, mais jalousie aussi vis-à-vis des humains. Et la plupart des païens sont jaloux de Dieu. Vous savez, quand ils nous voient en train de chanter pour Dieu, ça les énerve. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils perdent leur temps à chanter? C'est la jalousie. Ils ne comprennent pas que des gens se lèvent le matin, s'habillent proprement pour aller célébrer un Dieu invisible. Ah! C'est la jalousie. Parce qu'eux, ils sont visibles, on ne les célèbre pas. Un Dieu qui ne te paye pas en direct, mais tu vas les célébrer chaque matin. Et quand les païens voient ça, leur tête parfois veut exploser. Alors, ils nous traitent de tous les maux d'oiseaux. Ils sont bêtes. Ils sont inconscients. Ils manquent d'instruction. Bon, quand ils vont venir au milieu de nous, ils vont trouver des gens qui ont l'instruction. Ah ben, ils n'ont pas de diplôme. Ils vont trouver les gens qui ont des diplômes. Ah, ils sont pauvres. Ils vont trouver des gens qui sont riches. Alors, la colère augmente. Au lieu tout simplement de céder, de se dire, tiens, on a affaire à quelqu'un de réel. Pour que toute une masse de gens se lève le matin, pour aller le chanter, l'adorer. C'est qu'il y a une réalité. Peut-être que je ne vois pas, mais il y a une réalité. Toute cette masse ne peut pas être bête pour venir adorer quelqu'un d'invisible. Donc, il est bien réel, mais il est invisible aux yeux humains, mais il est visible au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme peut le voir. C'est l'éternel Dieu des armées qui a fait les cieux et la terre. Amen. Que son nom soit béni. C'est la jalousie. Mais comment? Les gens disent, mais mon ami, c'est un caïd, c'est un costaud. Mais aujourd'hui, il va prier. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a cessé d'être jaloux de Dieu. Il a compris que Dieu était Dieu. Lui, il était humain. Il devait se prosterner devant Dieu. Il ne devait pas rivaliser avec lui. C'est ce qu'il a pris. Il a compris ça. Comment rivaliser avec celui qui a fait le soleil sans se brûler les mains? Comment rivaliser avec celui qui commande sur la pluie, les tempêtes? À un moment donné, l'homme doit réfléchir, dire, je m'humilie, Dieu conduit ma vie. Malheureusement, beaucoup ne le font pas et finiront très mal. Malheureusement, il y a même des chrétiens qui sont encore dans la jalousie vis-à-vis de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu soit adoré. Soit loué. Quand il voit des gens qui sont très engagés, il les critique. Mais non, laisse-le honorer Dieu tel que lui, il pense que c'est bien. S'il se trompe, prie pour lui, que Dieu lui parle, parce que Dieu est vivant, il peut parler. S'il se trompe, montre-lui le passage biblique sur quoi qui montre qu'il se trompe. Mais ne t'énerve pas. Moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, il y a un frère qui m'énervait parce qu'il était tout le temps joyeux. Nous, on était encore des chrétiens cow-boys fatigués. Et on était là en train de juger les gens. Ah, celui-là, ses lunettes sont grosses. On était là, on venait au culte pour commencer à voir, mais les chaussures de l'autre regardent au ciel. Alors, quand on est un chrétien de ce genre-là, on ne peut pas être heureux tout le temps. Parfois, on est en colère. Mais ce frère-là, lui, il était tout le temps content, joyeux. Alors, il m'énervait. C'est la jalousie. J'étais jaloux de sa joie. Parce que moi, je n'avais pas un cœur en paix. Bien-aimé, la jalousie est dangereuse. La jalousie peut te faire boire du poison. Tu vois l'autre boire dans un grand verre. Toi, si tu veux le grand verre, oh, le grand verre était empoisonné. Attention, c'est ce qui a causé la chute de l'humanité. Et c'est subtil, la jalousie. Nous voyons comme le vent, le bruit. Nous entendons le bruit, nous voyons les conséquences, mais nous ne voyons pas le vent. La jalousie, c'est la même chose. On voit les conséquences. On commence à détester quelqu'un. On commence à faire tout pour acheter la même chose que quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un est plébiscité, on n'est pas content. Lorsque quelqu'un est choisi, on n'est pas content. Lorsque quelqu'un est applaudi, on n'est pas content. Bien sûr, nous savons que Dieu seul doit être applaudi. Mais lorsqu'il y a des erreurs, eh bien, prions que les gens qui sont dans l'erreur reviennent à la vérité. Mais parfois, c'est la jalousie qui se manifeste. Lorsqu'on voit quelqu'un avancer, on est gêné. Lorsqu'on voit quelqu'un accepté par les autres, on n'est pas bien. C'est la jalousie. C'est la mère de tous les problèmes. Parce que c'est elle qui était à l'origine, qui a conduit l'homme à la chute. L'homme a un problème, c'est qu'il cherche souvent à être le premier. Et nous lisons dans Luc au chapitre 22. Du verset 24 au verset 27. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire Genèse. Adam et Ève étaient dans la présence glorieuse de Dieu, mais la jalousie s'est manifestée. Et là, nous lisons Luc au chapitre 22. Les disciples de Jésus étaient dans la présence glorieuse de Dieu lui-même, le Fils, qui était au milieu d'eux. Mais malgré ça, il y a eu des pensées de rivalité, des pensées de jalousie. Sûrement, ils devaient discuter, mais oui, mais le Seigneur aime qui le plus? On connaît d'autres textes où la maman de Jean et Jacques demandait à Jésus de faire en sorte que au ciel, ses fils soient à gauche et à droite de lui. On connaît d'autres textes encore où ils cherchaient le plus grand. Jésus a pris un enfant, il leur a dit, il faut être comme les enfants. Au milieu du roi des rois, au milieu de Jésus, la présence simple, remplie de simplicité de Dieu, il y a des gens qui ont quand même eu l'idée d'être grand. C'est vouloir prendre la place de l'autre. On trouva, mais Jean est très proche de Jésus, moi aussi je veux. Mais Pierre, on lui donne des responsabilités, moi aussi je veux. Jésus a dit, ne réfléchissez pas comme ça. Les gens de ce monde acclament les dictateurs, ils les appellent les bienfaiteurs. Les grands présidents, ils sont adulés, adorés. Mais moi je vous dis que le plus grand au milieu de vous, c'est en réalité le plus petit. Dans l'homme, il y a toujours cette volonté d'être le premier. Premier en intelligence, premier dans la beauté, premier dans la force. Il y a toujours cette volonté d'être le premier. Et c'est ça, quand tu vas voir quelqu'un d'autre faire quelque chose de meilleur, la jalousie vient. Parce que tu veux être le premier. Donc la source de la jalousie, c'est ça. Nous vous allons donner quelques sources. L'une des sources, c'est l'orgueil du premier. Vouloir être le premier. Et quand l'autre le fait, on est gêné. Et souvent, on devient des très grands journalistes, des très grands juges, des journalistes d'investigation pour voir les erreurs. Parce que on est animé de l'esprit de jalousie. Et on ne veut pas accepter de voir l'autre faire des choses meilleures que nous. Et c'est ça qui tue. Aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, la jalousie, vouloir briller plus que l'autre, vouloir être à la place de l'autre, convoiter la place, le poste, les dons que l'autre a. L'orgueil du premier, les disciples de Jésus, ils étaient heureux, bien-aimés, vous avez Dieu avec vous. Mais qu'est-ce que ça vous fait de chercher encore qui est le premier, qui est le plus grand? Alors que vous avez tout ensemble. Il suffisait qu'ils aient faim. La nourriture était là. Jésus répondait à toutes leurs questions. Ils étaient sous la protection divine du matin au soir. Mais qu'est-ce qui leur a pris encore de chercher à être premier, de chercher le plus grand? Ça, c'est pour nous dire que c'est une semence qui est dans l'homme et qu'on doit la prendre au sérieux, la combattre pour être affranchi, vivre en affranchi, en libéré. C'est destructeur. C'est destructeur. Ça a détruit l'humanité et ça continue à nous détruire jusqu'à aujourd'hui, surtout lorsqu'on on travaille en communauté. On vit en communauté. La jalousie viendra encore agir. Et pour régler la question de la jalousie, il faut régler la question du premier. Régler la question de l'orgueil du premier. Ne plus chercher à être le premier. Que celui qui veut être grand soit le plus petit. Quand on accepte d'être petit, c'est là, entre autres, la clé de la victoire sur la jalousie. Même si tu peux avoir un titre, diacre, pasteur, tout ce que tu veux, sois toujours le plus petit. Ne te comporte pas comme si tu étais un pasteur. Quand tu dois faire tes fonctions de pasteur, tu te comportes comme un pasteur. Mais quand tu vis avec les autres, tu es un homme comme tout le monde. Tu es un chrétien. Que ce soit ton travail de pasteur qui révèle que tu es pasteur, mais que ce ne soit pas un titre. C'est pourquoi Jésus dit... Les grands dictateurs de ce monde, on les appelle des bienfaiteurs. Ils ont des grands titres. Mais en réalité, ils font aucun bien, nous le savons. Mais on leur donne tous les grands titres. Mais ils font aucun bien. Il a dit, mais vous ne faites pas comme ça. Si vous voulez avoir des grands titres au ciel, soyez des serviteurs des autres. Occupez-vous de servir au lieu de vous occuper d'avoir des titres, d'avoir des noms agréables à porter. Celui qui veut vaincre la jalousie doit vaincre l'orgueil du premier, doit accepter d'être inconnu, doit accepter d'être le dernier. Quand tu es le dernier, tu ne peux pas être encore plus dernier que cela, puisque tu es déjà dernier. Alors, si tu es heureux d'être dernier, c'est fini, tu as réglé la question. Tu ne pourrais qu'à avancer. Le Seigneur nous a donné une parabole, une histoire. Il a dit, quand tu arrives dans une fête, mets-toi à la dernière place. Alors, si tu es quelqu'un d'important aux yeux du maître de la fête, il viendra. Il te dira, mais mon ami, là, ce n'est pas ta place. Tu es à la dernière place. Avance. Tu fais partie des invités d'honneur. Mais si tu viens te mettre à la première place et que le maître de la fête vient et dit « Mon ami, il y a eu erreur. Là, ce n'est pas réservé. Ça, c'est réservé aux ministres, aux gens importants. Toi, tu es de troisième zone. Et tu vas reculer. Quelle honte! Alors, quelle est la meilleure place? C'est la place du dernier. Quand tu es à la dernière place, on ne peut que te faire avancer. Et qui sera heureux, tu es heureux. Mets-toi à la dernière place. Mais non, on ne veut pas de ça. On veut la première place. Et vous savez qu'est-ce que ça va produire? La jalousie. Et la jalousie, ça va produire quoi? Toutes sortes de stratégies malhonnêtes pour arriver à la première place. D'où le péché. D'où le péché. Parce que Adam... Et Ève, ils ont voulu être à la première place. Mais comme ils ne pouvaient pas y arriver normalement, puisque c'était impossible, c'est Dieu qui est à la première place, ils ont écouté des conseils du diable. Ils ont pris des voies détournées, diaboliques, parce qu'il y avait déjà l'orgueil de vouloir être premier. Et l'orgueil de vouloir être premier a produit la jalousie, et la jalousie a produit le péché sous toutes ses formes. Faisons attention, bien-aimés. Soyons le dernier en tout. Ne cherchons pas à être le premier. Même quand on fait à l'école ou bien où tu es au travail, on dit que tu es le meilleur. Toi, tu prends ça, tu jettes ce compliment-là, tu t'occupes, toi, de continuer à bien servir les autres. C'est ça qui est attendu de nous. Et là, nous serons vainqueurs de la jalousie. Parce que si tu prends le titre de meilleur comme à toi, dans 3 mois, il y aura un autre meilleur. Tu auras l'impression qu'on t'a pris quelque chose. Or, on ne t'a rien pris. Et c'est toi qui avais pris un titre. Et on te l'a repris. Il ne fallait pas prendre ce titre. Même si les gens t'ont qualifié de meilleur, toi, tu ne devais pas prendre ça. Tu devais laisser ça couler avec le vent. Et toi, tu continues ta route de serviteur. Et le jour où on dira, tu n'es plus le meilleur, toi, tu sais que tu ne l'as jamais été. Tu continues ta voie. Tu as toujours été le dernier et tu es toujours en paix. Un des problèmes de la jalousie aussi, c'est la convoitise des choses, les envies. Beaucoup d'entre nous ont des convoitises, des envies, et pensent que Dieu est incapable de s'occuper d'eux. Parce que s'ils étaient sûrs que Dieu était capable de s'occuper d'eux, ils n'auraient pas des convoitises, des envies qui les amène à la jalousie. Parce que quand une envie t'amène à la jalousie, c'est que ce n'était pas une bonne envie. C'était de la convoitise. Et comme je dis, la jalousie, ce n'est pas forcément que tu vas le dire, tu vas le voir se présenter devant toi pour te dire tu es jaloux. Non, tu vas manifester des comportements de gêne, des comportements d'être dérangé quand tu vois l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il a. Tu vas commencer à rêver d'avoir la même chose qu'un tel. Tu vas complètement oublier le contentement. C'est de la jalousie. Et il faut faire attention à nos envies. Parfois, nos envies ne sont pas justifiées. C'est parce qu'on a vu quelque chose chez l'autre. Comme on voit dans la publicité de Vegas à la télévision. Cette femme-là, elle voit le voisin qui a une limousine de 15 mètres, elle demande à son mari une limousine de 20, et l'autre va demander encore une limousine de 25, et c'est sans fin. Vous savez, les envies, ça ne finit jamais. Dernièrement, on a parlé d'un hôtel qui coûtait plus de 20 000 euros la nuit. 20 000 euros la nuit. Donc, imaginez que quelqu'un a pris ça pour un mois. Donc, l'argent que toi, tu peux utiliser pour acheter une maison, embellir la maison, lui, il utilise ça pour juste dormir. Un mois quelque part. C'est pour nous dire quoi? Les envies, c'est sans fin. La convoitise, c'est sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Le Seigneur nous donne un bon conseil dans 1 Timothée 6, apprendre à se contenter de ce qu'on a. Le contentement. Les envies, ça ne s'arrête jamais. Nous devons toujours analyser réellement ce dont nous avons besoin et ne pas fonctionner par réaction d'envie ni de convoitise. Analyser réellement. Quand nous avons des envies, les filtrer pour savoir leur source, pour savoir si c'est justifié. Quand nous avons des désirs, filtrer pour savoir leur source. Parce que c'est ça qui amène la jalousie. La jalousie, elle détruit. Elle détruit les familles. Il y a des gens qui peuvent être même frères et sœurs. C'est un lien très puissant, frère et sœur, hein, ou frère. C'est un lien très puissant. Mais ce lien-là très fort peut être coupé par la jalousie. Un lien si fort peut être coupé par la jalousie. Et je peux aller loin. Il y a des liens même. Père-fils, mère-fille, père-fille. C'est des liens puissants, mais qui peuvent être coupés par la jalousie. On a vu des enfants qui étaient jaloux de leurs parents et des parents jaloux de leurs enfants. La jalousie a une puissance terrible et nous devons faire attention à elle. Elle détruit les vies. Elle détruit les vies. Nous, quand on entend jalousie, nous voyons seulement la jalousie d'une femme par rapport à son mari ou vice-versa. Nous voyons la jalousie par rapport au bien matériel qui est très prononcé parfois. Mais non, elle est subtile. Elle motive beaucoup des actions. C'est ça le but de cette prédication. Regardez, vérifiez tes actions. Elles sont motivées par quoi? En général, vous allez voir que beaucoup d'actions sont motivées par la jalousie, par la volonté de faire comme l'autre, de l'égaler, de dépasser beaucoup. Et en parlant d'action, beaucoup d'achats sont faits par jalousie. Tu vois la sœur porter telle chose, oh, pourquoi pas moi? Et tu commences à mettre quelque chose de côté. Oh, comment ça, pourquoi pas toi? Ce que tu portais avant n'était pas bon. Là, on ne va pas en finir. L'autre a une limousine de 7 mètres. Toi, tu vas rajouter 15, elle, 18. Mais c'est sans fin. Bien-aimé, beaucoup d'achats sont motivés par la jalousie. Ce n'est pas bon. Beaucoup de décisions sont prises dans les vies des gens par jalousie. Un tel a voyagé, moi aussi je dois voyager. Oh, mais il y a plein d'avions, tu prends ton temps. Les avions fonctionnent encore. Non, l'un a fait ceci, moi aussi j'ai fait. Convoitise, jalousie, bien-aimé. Ce n'est pas bon, parce que c'est sans fin. Vous savez là où ça mène? À tuer, à empoisonner, à haïr. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui est un meurtrier. Parce que ça finit toujours mal. Nous avons vu, bien aimé, que le péché dans le monde est entré à cause de la jalousie des hommes vis-à-vis de Dieu. Et cette jalousie continue, c'est pourquoi beaucoup ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas par jalousie. Ils se font eux-mêmes Dieu en ne croyant pas à celui qui les a créés. C'est de la jalousie. Ils deviennent l'égal de Dieu. Attention, bien-aimé, à la jalousie. La clé que Dieu nous donne, c'est le contentement. 1 Timothée 6. Nous devons apprendre à nous contenter. Mais souvent, on m'a dit, mais pasteur, ce n'est pas mauvais d'être riche. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais faisons les choses telles que ça vient, telles que ça coule, pas dans un but de rivaliser avec qui que ce soit, d'être l'égal de quelqu'un d'autre. Ayons des objectifs, surtout je parle aux chrétiens, ayons des objectifs dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit motiver nos objectifs. Et le Seigneur ne nous interdit pas de bien nous habiller ou bien d'avoir de belles voitures. Mais faisons-le tranquillement, comme des dons que le Seigneur nous fait, et non pas dans une poursuite de brillance vis-à-vis des autres. 1 Timothée 6. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pourrons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Amen. Il faut apprendre le contentement. Ceux qui cherchent à s'enrichir finissent mal. Est-ce que ça veut dire qu'être riche est mauvais? Non. Mais tu es riche. Comment vas-tu être riche? C'est en faisant le travail que Dieu t'a confié. Si tu es entrepreneur, ton but, ce n'est pas de t'enrichir. Son but, c'est de faire un travail chez les humains pour être un témoignage pour Dieu. Que les gens voient que le travail, tu es en train de leur faire un travail qui leur sert réellement. Et quand ils vont apprendre que tu le fais par amour pour Dieu, eh bien, ils sont heureux de savoir que Dieu utilise des gens pour rendre la vie agréable sur terre. Et si dans ce travail-là, tu t'enrichis, gloire à Dieu. Mais le but visé, ce n'est pas l'enrichissement. Le but visé, c'est travailler. Et le travail produit l'enrichissement. Le but visé, c'est de rendre les autres heureux à travers ton travail. Parce que si c'est l'enrichissement qui est le but, eh bien, tu seras prêt à fausser les prix. Tu seras prêt à faire du commercial, méchant, du commercial menteur, où on ment sur la qualité des produits parce qu'on veut se faire du chiffre. Mais si le but c'est de rendre les autres heureux par le travail qu'on fait, ainsi être un témoignage pour le Seigneur, ben gloire à Dieu. Et si l'enrichissement passe par là, gloire à Dieu. Si le but c'est de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, gloire à Dieu. Et si l'enrichissement passe par là, gloire à Dieu. Mais le but ne doit pas être l'enrichissement. Parce que nous sommes riches dans le Seigneur. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il y en a même des gens qui disent, en réalité, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et Paul confirme ça dans 1 Corinthiens 6, il dit, nous avons tout, puisque c'est Dieu qui est notre Père, donc nous avons tout, puisque tout l'or, tout l'argent, tous les diamants appartiennent à notre Dieu. Donc c'est à nous, nous avons tout. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais Dieu me donne ce qu'il faut pour l'instant. Pour maintenant, il me donne ce qu'il faut. Imaginez que pendant qu'on est en train de prêcher là, on nous amène des poulets rôtis, 45 poulets rôtis. Mais qu'est-ce qu'on va... Non, ce n'est pas ce dont on a besoin maintenant. Ce dont on a besoin maintenant, c'est que le micro fonctionne. Bien-aimé. On n'a pas besoin de poulet rôti pendant qu'on écoute la prédication. Donc Dieu va nous donner ce qu'il nous faut au bon moment. Et nous, nous voulons avoir tout à tout moment. Et Dieu ne va pas se plier à ça. C'est la convoitise. Apprenons le contentement, bien-aimé. Je sais que je passe pour être... quelqu'un qui prêche la pauvreté, c'est bien sûr que c'est faux, hein, mais les gens qui veulent s'enrichir donc vont te faire passer pour tout ce que tu veux, pour tout ce qu'on veut, mais c'est faux. Nous prêchons la vérité. Dieu veut qu'on se contente, qu'on travaille pour rendre l'humanité heureuse, montrer que Dieu est bon et Dieu lui-même est béni. C'est ça qui est important. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, Paul est clair. Il dit, nous paraissons pauvres, mais nous sommes riches. Parce que notre Père a tout. C'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et nous marchons dans cette assurance-là des psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Ce que je demande à Dieu, c'est ce que j'ai déjà. Vous savez, quand tu vas retirer de l'argent dans ton compte bancaire, tu ne vas pas demander. Tu vas retirer ce que tu as déjà. On met entre parenthèses tout ce qui est découvert. Voilà. Donc tu vas retirer ce que tu as. Tu vas à la poste. donnez-moi. Alors nous aussi, quand on prie Dieu, on dit, Seigneur, donne-nous. Donc, ouvre ton tiroir, donne-nous. C'est déjà dans le tiroir. On sait que la voiture est déjà dans le tiroir. La maison est déjà dans le tiroir. Dieu n'a qu'à ouvrir le tiroir, il sort, allez, vas-y. On sait que les beaux cheveux sont déjà dans le tiroir. Au lieu de gaspiller dans trop de L'Oréal, la prière, et le Seigneur donne les bons cheveux. C'est ça la vérité. Mais la convoitise, tu vois à la télé, oh, cette crème-là rajeunit. Tu vas dépenser pour rien. La personne qui a fabriqué la crème-là va mourir avec des rides. Mais toi, tu vas dépenser pour ne pas avoir des rides. C'est ça la réalité. Convoitise. Et ça produit la jalousie. Bien-aimé, il y a même des gens qui ne veulent plus vieillir aujourd'hui. Moi, je suis content de vieillir, mon temps arrive d'aller au ciel. Ceux qui veulent rester ici dans les canicules, dans les crises économiques, c'est leur problème. Moi, plus le temps passe, plus je me dis, ouf, je me rapproche de la fin. La convoitise de la terre est dangereuse. Et on ne veut plus vieillir. Oh. Mais si tu ne veux pas vieillir, donc il faut que tu cherches la mort alors, pour ressusciter et ne plus vieillir. Il faut vieillir avec joie et avec assurance. Même si tu ne pourras plus porter ton sac, quelqu'un d'autre le portera au nom de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Parce que Dieu est avec nous, on est là, on se contente de ce qu'on a. Il y a des gens à la télé, des gens de 70 ans. Ils veulent faire des maquillages pour paraître jeunes. Oh. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas Dieu. Mais toi, le chrétien, tu vas aussi te comporter de la même manière. Toi, tu as tout. Tel que tu es, ta femme t'aimera comme ça, ton mari t'aimera comme ça. Tu n'es pas obligé de jalouser l'autre femme. C'est important, bien-aimé, le contentement. C'est la clé de la victoire. Un autre élément bien-aimé pour la victoire vis-à-vis de la jalousie, c'est l'esprit d'équipe. Nous qui travaillons pour le Seigneur, travaillons dans une logique d'équipe. Et quand je dis nous qui travaillons, il ne s'agit pas de cette assemblée seulement. Il s'agit du corps du Christ. Il s'agit du chrétien dont on parle beaucoup aujourd'hui. Qui chante bien ou qui prêche bien. Il ne faut pas être là à vouloir chercher ses défauts parce que tu es jaloux. Parce que les gens parlent trop de du bien de lui. Il faut te réjouir parce qu'il fait le service du Seigneur. On est en équipe. C'est la même équipe. Il ne faut pas être jaloux en disant « Oh, mais il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce garçon-là c'était un voyou, maintenant il nous prêche. » Mais oui, mais c'est lui que Dieu a choisi. Tu dois te réjouir que vous êtes dans la même équipe. L'esprit d'équipe est très important. Beaucoup n'ont pas l'esprit d'équipe. Beaucoup ont la logique de la course, quoi. Il est tout seul. Il court. Une logique égoïste. On doit avoir la logique de l'esprit d'équipe. Vous savez, les païens qui n'ont pas Dieu ont parfois l'esprit d'équipe. Ils sont à 11. Pendant qu'ils jouent au match, ils mettent leur jalousie de côté. Il faut que leur équipe gagne. Parce que, bien aimé, quand on va dire champion du monde, on va dire tous champions du monde. Même celui qui est sur le banc de touche, on va dire champion du monde. Il n'a pas joué, il n'a pas touché au ballon. Hein. Mais on va l'appeler, on va dire c'est les champions du monde. Parce que toute l'équipe a gagné. Et beaucoup d'entre nous manquent de cet esprit d'équipe. C'est en réalité un manque d'amour. On n'a pas l'amour pour l'œuvre de Dieu, pour le corps du Christ. On ne regarde qu'à soi. Jésus, c'est pour toi seul. Tu ne vois pas Jésus avec toute sa famille. Tu n'aimes pas la famille de Dieu. tu n'aimes pas l'équipe de Dieu. Parce que si tu aimes l'équipe de Dieu, quand tu vois un équipier faire des bonnes choses, tu es content parce que c'est toute ton équipe qui est en train de gagner. Je n'ai jamais vu un joueur fâché parce que l'autre a marqué un but qui les a sauvés. Hein. Je n'ai jamais vu. On a même vu à la télé l'Uruguayen, je crois, ou le Paraguayen, j'ai oublié le pays. Il a pris même avec les mains, ça allait entrer, il a pris ça avec les mains. Mais il a été accueilli en héros chez lui de retour. Personne n'a dit, ah, oh, mais non, c'est pas... En héros, il a sauvé l'équipe. L'esprit d'équipe, chez les païens, mais chez les chrétiens, il n'y a pas l'esprit d'équipe. Par jalousie, on ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre faire des bonnes choses. Et on va chercher à le bloquer. On va chercher à parler du mal de lui. Bien-aimés, parfois, il y a des gens qui sont hypocrites, que les autres encensent. Et on se dit, mais non, il n'est pas comme on le pense. Et parfois, on se dit, c'est la vérité qu'on veut établir. Non, parfois, c'est la jalousie. Laisse les autres le découvrir. S'il n'est pas ce que l'on pense, laisse les autres le découvrir. Peut-être c'est la jalousie de voir que les autres sont en train de l'acclamer, de l'encenser, qui te fait réagir. Si tu es vraiment sûr que c'est une mauvaise personne, Dieu les dévoilera. Dieu la dévoilera. Dieu montrera. Sois en paix, prie le Seigneur, que le Seigneur dévoile les choses telles qu'elles sont, mais ne sois pas dans une logique de jalousie qui va te conduire à parler du mal, à réagir mal. Non, bien-aimé. Soyons des gens de paix, dans un esprit d'équipe. Dans un esprit d'équipe. Parce que lorsque l'un gagne, tous nous gagnons. Parce qu'on est dans une même équipe. Lorsqu'une église fait de grandes choses, toutes les églises sont bénies. Parce que c'est l'église du Seigneur, c'est la même église. D'ailleurs, les païens, eux, ne se trompent pas. Ils savent reconnaître quelle est la vraie église. Ils savent reconnaître les vrais chrétiens. Quand ils les voient, ils disent, toi, tu ressembles à un tel. Vous êtes dans la même équipe. Pourtant, ils sont dans deux pays différents, mais c'est la même équipe. Parce que c'est la même équipe. Et donc, nous devons vivre dans cette logique-là. C'est la même équipe. L'autre est élevé. C'est notre équipe qui avance. Gloire à Dieu. Mais l'autre est élevé. Ah! Le pasteur se trompe. Non. Le pasteur peut se tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper. Dieu, lui, va faire les choses telles que c'est. Il faut faire confiance en Dieu. L'esprit d'équipe est très important. Vous savez, je vais ajouter un autre élément avant de clôturer avec Jésus, sur ce que Jésus lui-même a vécu. C'est que l'esprit d'équipe est lié aussi au travail. Vous savez, beaucoup de gens qui sont jaloux, beaucoup aussi c'est parce qu'ils ne travaillent pas vraiment en profondeur. Ils ne travaillent pas vraiment en profondeur. Ils ne travaillent pas sérieusement. Vous vous imaginez, les soldats, quand ils vont en guerre, ils se font confiance totalement. Ils savent que, il dit à l'autre, couvre-moi. Et lui, il va. Il fait confiance que l'autre va le couvrir. Parce que si l'autre ne le couvre pas, on le tue. Ils ont vraiment l'esprit d'équipe. Il connaît l'importance de son coéquipier. Il sait que si mon coéquipier ne veille pas sur moi, on me tue. Moi, j'avance, lui, il me couvre. C'est l'esprit d'équipe. Bien-aimé, nous avons besoin d'entrer dans cet esprit d'équipe-là. Si on n'entre pas dans cet esprit d'équipe, la jalousie va nous miner et va nous détruire. Bien-aimé, comprendre que si ton voisin chrétien est en forme, ça te fait à toi un avantage. Donc ce ne sera pas le chrétien que toi tu prendras encore du temps à exhorter, à fortifier, parce qu'il est déjà en forme. Sois heureux de voir les autres en forme spirituellement. Sois heureux, bien-aimé, parce que c'est ton équipe, et ton équipe est ainsi forte, et toi tu es bien, bien-aimé. Parce qu'au bout, le salaire sera donné à tous. ne sera pas donné qu'à à la personne qui a marqué le but. On donnera les mêmes primes à tout le monde. Les gens qui ne travaillent pas sérieusement sont très jaloux. La jalousie vient de cela. Parce que quand on travaille, on est content de voir que quelqu'un a sauvé l'équipe. Bien-aimé, on a vu certains matchs où la personne qui marque saute de joie, mais il y a des gens, le gardien saute plus que lui. Parce que c'est l'équipe qui a gagné. Le gardien saute parce qu'il vient d'être délivré. Et les journalistes n'en parlent pas. Ils crient même. Le journaliste, il est devant sa télé, il crie. C'est comme si c'est lui qui vient de marquer. Mais nous, on est jaloux, on voit l'autre chanter bien. Le pasteur, on freine, quoi, comme les camions. Le pasteur, il a avantagé. Oh! Mais Dieu n'avantage personne. Dieu est bon, il n'est le cousin de personne. Eh bien, si le pasteur a avantagé quelqu'un, toi, Dieu, que Dieu t'a déjà avantagé. Quand tu as été sauvé par Jésus, Dieu t'avait déjà avantagé. Profites-en. L'esprit d'équipe, c'est important. Chacun a son rôle. Acceptons le rôle de chacun. Ne cherchons pas à prendre le rôle de l'autre. Le rôle de l'autre n'est pas meilleur. Il est bon puisqu'il est bon pour nous tous. Vous vous imaginez si l'œil ne voulait pas que l'oreille fonctionne bien. Mais on en finirait où? Donc ça nous rendrait sourds. Parce que l'œil ne veut pas que l'oreille fonctionne bien. Bon, le corps dit, bon d'accord, dans ce cas, l'oreille ne fonctionne plus bien pour faire plaisir à l'œil. Après, vois que bon, tu as de belles jambes. Non, je veux que les jambes là ne fonctionnent plus. Il faut seulement que mes beaux yeux soient vus. D'accord, ça ne fonctionne plus. Mais après, tu vas manger où? On raconte même par les païens, dans l'époque romaine, les gens ont fait la rébellion. Les plébéiens, les paysans de l'époque, ont fait la rébellion vis-à-vis des aristocrates, les gens qui géraient l'administration, pour dire on ne comprend pas, nous on fait le champ, on fait l'élevage, mais c'est eux qui gèrent l'argent. Non, nous voulons nous tous gérer. Et puis on a appelé un avocat, il a raconté la parabole de l'estomac. Donc tout le corps, tous les membres du corps s'étaient rebellés contre l'estomac en disant que tout finit chez lui. On mange, ça finit chez lui. On boit, ça finit chez lui. Nous voulons tous profiter du gâteau. Et bon, et ils ont fait grève. La mère a dit, d'ailleurs, moi, je ne vais rien plus cueillir comme fruit. La bouche a dit, je ne bois plus. Et les yeux ont dit, nous ne montrons plus le chemin pour aller au marché. Les jambes, n'en parlons pas. Elles ont dit, on dort. Bien-aimés, quelques instants après, quelques heures plus tard, les yeux ont voulu s'ouvrir, mais ils étaient fatigués. Les jambes ont voulu bouger, mais pas de force. Les bras ont voulu gratter le dos, pas de force. Alors ils ont compris que ce que l'estomac recevait, il les redistribuait à chacun. Mais ils ne s'en rendaient pas compte. Ils ont repris la marche normale, l'estomac devait recevoir pour redistribuer. Bien-aimé, c'est ça l'esprit d'équipe. C'est que l'autre reçoit d'une manière spirituelle, sans que toi tu vois, ça se redistribue chez nous tous. Ne soyons pas jaloux. Soyons des vrais travailleurs. Moi, j'ai souvent travaillé en équipe. On est content lorsque l'un de nous nous sauve, quoi, parce que les équipes combattent contre d'autres équipes. Nous combattons contre le diable. Et quand l'un d'entre nous a reçu la révélation qu'il fallait pour détruire un plan du diable, comme ça fait de la joie, on est sauvé. L'équipe est sauvée. Bien-aimés, arrêtons avec la jalousie, les envies non justifiées. Prenons l'exemple de Jésus dans la Philippiens 2. Ne soyons pas des paresseux. Les paresseux ne passent que leur temps à trouver qu'ils sont défavorisés. Ils n'ont pas eu toutes les chances comme les autres. Et ainsi de suite. Ils passent leur temps à se plaindre, à jalouser. Mais les travailleurs ont le travail en tête et ils avancent. C'est ça la réalité. Les travailleurs s'occupent du travail, ils ne s'occupent pas des titres, ils s'occupent du travail. Ils s'occupent de sauver les âmes, ils s'occupent de prier, ils s'occupent d'être en communion avec Dieu au lieu de suivre les titres, les félicitations. Philippiens 2. Qu'est-ce qui est écrit à partir du verset 5? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il s'est humilié, il a pris la dernière place, jusqu'à la mort à la croix. Il a accepté d'être dernier, et Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom. Bien-aimés, nous prêchons la vérité qui libère, qui enrichit dans le Seigneur. Et nous pouvons réellement marcher avec le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les gens disent, nous trouverons toujours des choses que nous manquons, mais nous ne manquons de rien. Parce que Dieu est avec nous et Dieu est à tout. Et il a tout. Et parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes toute une équipe. Si moi je manque une maison, mon frère a une maison. Un jour, les passants, quand ils vont me voir entrer dans la maison du frère, ils vont croire que c'est ma maison. Donc j'ai profité de quelque chose en ce moment-là. Quand on va me voir déposé par le frère dans sa voiture, les gens vont dire, oh, il a une belle voiture, mais ce n'est pas ta voiture. Mais en ce moment-là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Ce qui est à l'un est à l'autre, parce que nous sommes la même équipe. Donc il faut supporter que l'autre s'habille bien et que toi tu sois démodé. Ça sert pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu présenteras le frère, au moins tes amis de la famille verront que tu as quand même des frères en Christ qui ont des bons costumes. Ils ne vont pas dire que le christianisme c'est pour les pauvres. Ils vont changer de langage. Quand ils verront ta sœur en Christ, très bien habillée, ils diront, oh, nous croyons que le christianisme c'était pour les vêtements à deux sous là. Non. Tu as quand même des sœurs qui portent des lunettes de qualité. Voilà. Il ne faut pas être jaloux. Il faut aimer la réussite de l'autre parce que c'est ta réussite. C'est ton frère et ta sœur. Ça contribue à la même équipe. Et si on aura la paix, on sera dans la joie. Tu vas chez le frère, il a un gros divan, t'en profites bien comme il faut pendant 2 heures du temps et tu pars. Voilà. On te prend même une photo avec ton téléphone portable. C'est à nous tous, parce que c'est à notre Père. Il ne faut pas être jaloux. Moi, je suis en paix. Je sais que la voiture du frère, un jour, il m'amènera à Paris avec. Il n'y a pas de problème. On laisse le temps que ça s'affermisse comme il faut. Amen. Au lieu de jalousie, moi aussi, tu risques de changer de visage pour rien. Alléluia. Arrêtons avec la jalousie, nous serons les hommes les plus heureux. Que Dieu soit béni, prions le Seigneur. Éternel, nous voulons être comme Jésus, notre Seigneur, notre enseignant et notre maître. Nous voulons réaliser, et c'est la vérité, que nous avons tout, parce que tu es notre Père, et en toi il y a tout. Il n'y a qu'à ouvrir les tiroirs, Seigneur. Aide-nous à réaliser cela, à aimer la réussite de l'autre, à aimer l'enrichissement de l'autre, à aimer les avantages que l'autre a, parce que, étant de la même famille, étant de la même équipe, ça nous profite à nous tous, d'une manière ou d'une autre. De la même manière, Seigneur, que l'œil ne voit pas comment l'estomac redistribue, mais nous savons que l'estomac redistribue à tout le corps. Et nous savons aussi que ce qu'un frère ou une sœur obtient par toi, Seigneur, c'est redistribué à nous tous. Et c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, Seigneur, que les dons que tu donnes à chacun, c'est pour l'utilité commune. Nous devons croire ce qui est écrit et aimer voir des chrétiens forts, aimer voir des chrétiens réussir spirituellement et matériellement. Même si nous allons peut-être nous retrouver en prison à cause de la vérité ou dans des pays difficiles, nous devons être dans la joie de savoir qu'il y a des chrétiens qui sont dans des pays faciles, entre parenthèses. Parce qu'ils peuvent manger comme ils veulent. Ils peuvent prier comme ils veulent, dans des endroits bien aménagés. Et c'est notre joie parce que nous sommes dans le même corps. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans un esprit de travail. Parce que lorsqu'on travaille, c'est là que vraiment on sent l'utilité de l'autre. Parce que le travail souvent est dur. Mais quand il y a quelqu'un qui aide, ça soulage, ça fortifie. Aide-nous, Seigneur, à aimer travailler. Quand on va travailler, c'est là qu'on verra l'utilité de la force des autres. Aide-nous à avoir vraiment un esprit d'équipe, Seigneur. À comprendre que nous sommes une équipe, nous ne sommes pas dans une course individuelle. Aide-nous, Seigneur, à en finir avec les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. En finir avec des désirs qu'on n'a pas filtrés, mais que nous filtrons nos désirs dans le tamis du Saint-Esprit, Seigneur. Afin que seuls tes désirs à toi en nous passent. Ô Seigneur, nous voulons ressembler à Jésus, qui n'a désiré ni carrosse, ni char, mais qui marchait à pied, faisant du bien à tout homme. Nous ne voulons pas être comme ce qu'ont manifesté les disciples. Ils ont voulu chercher qui était le plus grand. Nous savons qui est le plus grand, c'est Jésus. Lui seul a vécu sans péché. Et nous tous, nous sommes des sauvés par grâce, par ta bonté. Seigneur, nous voulons finir avec l'affaiblissement de ton Église, en général, à cause de nos propres fautes. Le diable ne pouvant rien contre ton Église, il nous influence à nous détruire de l'intérieur nous-mêmes. Et nous ne voulons plus lui donner cette occasion-là. Nous voulons vraiment te servir sérieusement dans l'esprit d'équipe. Ô Éternel,